Chapitre 34. McKinnon insista pour me conduire à une agence de location de voitures. La police avait déjà saisi la mienne, m'expliqua-t-elle. Dans la mesure où elle allait être traitée comme une scène de crime, il n'y avait aucun moyen de savoir quand je pourrais la récupérer. Ou si je pourrais la récupérer. Un silence gêné régnait dans la voiture. De mon côté, je pensais à tout ce qu'il me fallait cacher. Et McKinnon, le visage grave, ne laissait rien paraître. Comme si elle-même possédait des secrets qu'elle n'osait pas avouer. Je me rendis compte qu'au fil des années où nous avions collaboré pour tenir ma sœur sous contrôle, la directrice et moi étions devenus davantage que des collègues, des amis. Je me demandais si les surveillants, Maria Lopez, ou Chris, ou Bob, en pensaient autant. Je me demandais quel effet ça leur ferait, le cas échéant, de découvrir que c'était moi qui avais fait évader ma sœur, que c'était moi qui avait trahi leur confiance. Il me sembla que je devais dire quelque chose, faire un geste dans sa direction, des excuses à demi-mot, qu'elle ne comprendrait peut-être pas sur le moment, mais qui la réconforterait plus tard. Mais alors elle se tourna vers moi, et ses yeux noirs jetaient de tels éclairs que je ne pus m'empêcher d'avoir un mouvement de recul. Si vous étiez intelligente, vous feriez changer vos serrures, Adeline, dit-elle, moins sur le ton du conseil que de la provocation. « Vous êtes intelligente ?» Je ne répondis pas. « Et si vous étiez encore plus intelligente, vous partiriez en vacances, aux Bermudes par exemple, loin, très loin d'ici. » « Si ma sœur me voulait du mal, je serais déjà morte, » fis-je une nouvelle fois remarquer sans me démonter. Elle me lança encore un regard acéré. « Vous partez du principe que votre sœur est le seul danger qui vous menace. » « Que voulez-vous dire ?» répondis-je vivement. Mais elle se détourna, fixa la route, et nous ne dîmes plus rien. Dans l'agence de location, le réceptionniste jeta un regard à mon visage couvert de pansements, à la manique de cuisine qui me tenait lieu de main gauche et eut aussitôt un mouvement de recul. Mais McKinnon ne s'en laissa pas compter. Elle entreprit d'asséner des instructions, et en moins de 20 minutes, je disposais d'une berline bleu marine. « Je vous suis jusque chez vous, » annonça-t-elle avec autorité. « Je vous aiderai à vous installer. »« Non merci, ça ira. J'ai juste besoin de repos. »« Est-ce que vous arriverez même à ouvrir votre porte avec ce truc ? À tenir la clé, à la tourner dans la serrure ?» Elle désignait ma main gauche, inutilisable. Sans parler de conduire, de passer une tenue confortable, de vous préparer un repas. « Ça ira. » « Adeline. » Kimberly. Elle se rebiffa en m'entendant l'appeler par son prénom, ce qui m'arrivait rarement. Elle essaya encore le coup du regard sévère. Puis, voyant que ça ne marchait pas, « Ne le prenez pas mal, Adeline, mais quand il s'agit de Shanna, vous pouvez être la dernière des imbéciles. » Je tâtai les pansements de mon visage. « Et ce serait ma punition ?»« Je n'ai pas dit cela. » En l'occurrence, c'est clairement Shanna qui est en tort, mais vous êtes sa sœur, et vous tenez mordicus à trouver ce qu'il pourrait y avoir de bon en elle, quand bien même il n'y aurait rien. Je le note. Souvenez-vous qu'elle est sous ma responsabilité depuis près de 10 ans. Vous n'êtes pas la seule à la connaître, à pouvoir prédire ses moindres faits et gestes. Je vous raccompagne à votre appartement. Contre nous deux, elle n'aura aucune chance. Elle m'offrait son aide, de bonne grâce. Mais ses yeux étaient de nouveau anormalement brillants, et cela me mettait mal à l'aise. Avais-je affaire à une directrice de prison atteinte dans son amour-propre et soucieuse de remettre les pendules à l'heure, de châtier la seule et unique détenue qui avait triomphé d'elle? Ou bien avait-elle une autre motivation que je n'avais pas encore réussi à cerner? Je vais faire changer mes serrures, sans faute, c'est promis. McKinnon se renfrogna, m'observa, sans bienveillance. Et des idées très désagréables me passèrent par la tête. Didi était de plus en plus convaincue que le tueur à la rose était peut-être une femme, et que ma sœur ne pouvait pas avoir été en contact avec un complice à l'extérieur. tandis qu'avec un complice à l'intérieur de la prison, disons une codétenue, un surveillant, ou même la directrice. Je dois y aller. Il faut que je me repose. McKinnon hésitait, toujours impénétrable. Vous êtes sûre?
Certaine.
Et ces vacances?
J'y songerai.
Vous me tenez au courant?
Bien sûr,
mentis-je. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin, Adeline. Je me rends bien compte que notre relation a toujours tourné autour de Shanna, mais après toutes ces années, si vous avez besoin de quoi que ce soit, conclut-elle avec raideur, ce serait un honneur de pouvoir vous aider.
Si ça peut vous consoler,
répondis-je en me dirigeant vers la voiture de location. Je doute que Shanna prenne grand plaisir à sa liberté en ce moment. Après 30 ans d'incarcération, j'imagine qu'elle se sent plutôt dépassée, voire carrément angoissée. La directrice poussa un petit grognement et me laissa m'éloigner, ce qui nous donna de l'air à toutes les deux.
Oui, c'est une idée assez réconfortante. Mais ce sera encore mieux quand une brigade d'intervention lui aura mis le grappin dessus.
À mon tour de sourire. Mais le frottement des bandages rugueux sur ma peau faisait un drôle d'effet.
Kimberly,
la rappelai-je, la main sur la poignée de la portière.
Oui?
Je suis désolée. Pour ce matin, pour tout ce que ma sœur vous a fait subir, pour... tout. Ce n'est pas à vous de vous excuser. Je souris de nouveau et me fis la réflexion que, insensible à la douleur que j'étais, cette sensation dans ma poitrine ressemblait pourtant étrangement à une cuisante et sourde brûlure. De retour au pied de mon immeuble, je garai la voiture de location au sous-sol. Auparavant, j'avais fait 3 fois le tour du quartier et compté 4 voitures de patrouille. 3 de la police municipale, 1 de la police d'État. Mon appartement resterait sous surveillance jusqu'à nouvel ordre. Supposais-je. Il était donc impératif de prendre des dispositions pour la suite des opérations. Je rentrai chez moi avec prudence, sans bien savoir ce que je redoutais le plus d'y découvrir. Les enquêteurs, des techniciens de scène de crime, ou le tueur à la rose lui-même. Je ne trouvai que des pièces désertes. Jusqu'à présent, la police me considérait comme une victime. Des agents surveillaient mon immeuble au cas où ma sœur s'en serait approchée. Mais il n'avait pas encore de raison d'envahir mon intimité, étant donné que Shanna avait été vue pour la dernière fois à plus de 30 kilomètres de là et qu'on la croyait à pied. Shanna ne savait pas conduire. J'avais oublié ce détail. Si bien que je me demandais sur quels autres détails je m'étais plantée. Je me livrai à une rapide exploration de mon appartement. Les caméras étaient toujours là, les objectifs recouverts de rubans adhésifs. Le tueur à la rose n'avait pas encore eu l'occasion de venir récupérer ses jouets. Trop occupé à espionner la prochaine victime, à moins qu'il ne savoure cette brève accalmie avant de revenir bouleverser ma vie. Je n'avais plus peur. J'avais surtout envie qu'il se dépêche d'en finir. Dans la salle de bain, je décollai avec précaution les pansements de mon visage. Autant ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Je pris une grande inspiration, relevai la tête. Et ouvrit de grands yeux. Les pansements blancs n'étaient certes pas très discrets, mais le patchwork sanglant qu'était devenu mon visage était carrément une vision d'épouvante. 6, 7, 8 balafres écarlates. Sur mon front, à la verticale, au-dessus et en dessous de mon œil droit. Sur mon nez, sur mes 2 joues, une entaille irrégulière sur le menton. On aurait dit la créature du docteur Frankenstein. Pas une vraie femme. Une macabre imitation cousue à partir de morceaux de peau pris au hasard. Et cependant, je tâtai une plaie rouge luisante, puis une autre. Seules 3 d'entre elles avaient nécessité des points de suture, et encore, uniquement par endroit. La plupart, comme Shanna l'avait promis, étaient superficielles. Les médecins les avaient nettoyées avant de les recouvrir de colle cutanée pour stimuler la cicatrisation. Non. C'était de loin ma main gauche qui avait le plus souffert. Et c'était moi qui m'étais infligé ces blessures, très probablement en sciant les liens de Shanna. Ma sœur avait tenu parole. Ça voulait dire quelque chose, non? L'honneur des brigands, tout ça. Plus moyen de revenir en arrière, informai-je la femme dans le miroir. Plus moyen. J'aurais aimé prendre une douche, mais je n'étais pas censée me mouiller la main ni le visage.
je me contentai d'une toilette de chat, ce que je pouvais faire de mieux avec ma seule main droite. Puis, j'enfilai tant bien que mal un jean ample, un pull uni à torsade. Revigoré, je me dirigeai vers mon dressing. J'y avais un coffre, tout au fond, où je conservais mes plus beaux bijoux. Je l'ouvris et en sortis un téléphone. Un appareil prépayé, le jumeau de celui que j'avais laissé à ma sœur dans mon sac à main et dont j'avais appris le numéro par cœur au petit matin. Je le composai. Le téléphone sonna. Deux fois, trois fois, quatre, cinq, six fois. Au moment où je commençais à paniquer, ma sœur décrocha. « Tu es où ?» demandai-je.
« Funnel Hall. »«
Funnel Hall ? Comment tu es arrivée là ?»«
Je ne sais pas conduire. »
répondit-elle d'une voix monocorde. « Alors comment ?»«
Un type s'est arrêté. Il a vu la voiture en panne. Il a proposé de m'emmener. Je m'étais nettoyé le visage. »
ajouta-t-elle, comme si ça expliquait tout. Je n'ai pas pu m'empêcher. « Et cet homme, est-ce qu'il... » ?»«
Je ne l'ai pas tué. »
Pour la première fois, j'entendis de l'exaspération dans sa voix.
« Je ne savais pas où aller. J'ai dit Boston, il m'a déposé ici. Il y a plein de monde, je me fonds dans la foule. »
« Des policiers ?»«
Pas trop. »
Probablement parce qu'ils portaient leurs efforts ailleurs. « Je serai là dans un quart d'heure, » dis-je à ma sœur. « Je te retrouve au Starbucks. C'est le café au bout du coin des restaurants. »«
Je sais ce que c'est qu'un Starbucks. »
dit-elle, de nouveau exaspérée. « Désolée, je ne savais pas que tu t'y connaissais en gastronomie extracarcérale. »«
Je t'emmerde, »
dit-elle, mais sans irritation. Je ne pus m'empêcher de sourire. L'espace d'un instant, on aurait presque dit deux sœurs. Je raccrochai, pris les plus grosses lunettes de soleil que je pus trouver pour dissimuler mon visage martyrisé et descendis, attraper un taxi. La première fois, je passai à côté de Shana, sans la reconnaître. Un type mince, la quarantaine, en jean et chemise à carreaux, tranquillement assis à une table. Aucune raison d'y regarder à deux fois. Ce ne fut qu'après avoir examiné toute la salle noire de clients que je compris mon erreur. Pourquoi cette personne se détachait de toutes les autres? Quand je retournai à la table, Shana me souriait. « Je me suis bien démerdée, » dit-elle avec une pointe de fierté. Et c'était vrai qu'elle s'était bien démerdée. Très bien même. Disparue, les longues mèches ternes, elle s'était ratiboisé les cheveux à la tondeuse. Et cette coupe de garçon modifiait sa physionomie, lui donnait l'air plus jeune et plus masculine. Surtout avec sa carrure relativement large, sa poitrine plate et ses hanches inexistantes. J'avais mis un jogging dans le sac, mais elle avait dû utiliser une partie de l'argent pour s'acheter des vêtements neufs, parce qu'elle portait un jean artificiellement vieilli et une belle chemise à carreaux. On aurait dit une pub pour Gap ou Old Navy. Les tons naturels du tissu écossais convenaient mieux à sa carnation que l'orange vif, mais elle avait aussi eu recours au maquillage. Du fond de teint, j'aurais dit. Peut-être un peu de poudre. Suffisamment pour lui unir le teint, la rajeunir de plusieurs années. J'avais l'impression de participer à une émission de relooking pervers. Comment faire 20 ans de moins et ne plus avoir l'air de sortir de prison? Elle avait une casquette de baseball posée devant elle, avec un gobelet de café. Le sac de voyage que j'avais laissé pour elle dans la voiture tenait compagnie à ses pieds. Je m'assis en face d'elle. Je me sentais ringarde dans mes vêtements enfilés à la va-vite et pas très discrète, avec ma main et mon visage blessés. Nous n'allions pas pouvoir nous attarder ici. Nous n'allions pouvoir nous attarder nulle part sans attirer l'attention. Ma sœur prit une gorgée de café. Les doigts de sa main gauche pianotaient en rythme sur la table, signe qu'elle n'était pas aussi détendue qu'elle voulait le paraître. « C'est comment ?» demandai-je en montrant son café. Elle grimaça. « On dirait de la pisse de chat. Et c'est l'enfer pour commander. Je me suis fait engueuler par un gamin dans la queue. Starbucks est un phénomène culturel. Tu t'habitueras. » Elle grimaça de nouveau, reposa le gobelet, prit la casquette, la tordit entre ses mains. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aurais envie de faire, dont tu rêves depuis des années. » Elle me regarda d'un drôle d'air. « Adeline, j'ai pris perpète. Les condamnés à perpète ne rêvent pas. Ils n'ont pas d'avenir. Mais c'est comme dans ton souvenir, le monde extérieur. Plus ou moins. Plus bruyant, plus démentiel. Comme si les souvenirs étaient décolorés et que ça, c'était la réalité. On se sent dépassé. » Elle haussa de nouveau les épaules. Elle se voulait nonchalante, mais continuait à triturer sa casquette. Après 30 ans à l'isolement, se retrouver en pleine journée dans le centre-ville de Boston, la plupart des gens n'auraient pas tenu le choc. « Tu pourrais t'en aller, » dis-je posément. « M'abandonner, partir. » Ma sœur ne mordit pas à l'hameçon. Au contraire, elle me regarda droit dans les yeux. « Pour aller où ? Avec qui ? Faire quoi ? Je ne sais pas conduire. Je n'ai jamais eu d'emploi. Je ne sais pas comment trouver un appartement ou une maison. Je ne sais même pas me préparer un repas. L'État m'a prise en charge pratiquement toute ma vie. Je crois que je suis un peu trop vieille pour changer ça. « Je suis désolée, » dis-je. Ma phrase du jour. « Pourquoi ? Tout ça n'a rien à voir avec toi. Le passé est le passé. Ce n'est pas toi, la psy. Parce que tu m'as l'air un peu bouchée, des fois. « Tu vas m'aider ?» Maintenant qu'elle était dehors, je n'en étais plus aussi certaine. J'ai consulté mon emploi du temps surchargé. Il semblerait que je puisse caser un affrontement avec un tueur en série aujourd'hui, mais pas plus. S'il y en a d'autres, il faudra négocier un paiement échelonné. Et peut-être que je suis employable finalement. Tu ne sais vraiment pas qui est le tueur à la rose ? Non. Tu n'as été en contact avec personne. Elle me lança un regard appuyé. Le tueur est venu chez moi hier soir, murmurai-je, pour m'apporter un cadeau. 3 bocaux, pleins de peau humaine. Ma sœur ne moufta même pas. Pourquoi a-t-il pensé que ça te plairait ? Je ne répondis pas. J'aurais pu, mais non. Tu as peur, Adeline ? Pas toi ? Jamais. Je ne comprends même pas cette émotion. Tu ne ressens pas la douleur. On croirait que tu ne connaîtrais pas non plus la peur. Je fais des cauchemars parfois. Je suis dans un endroit très sombre, je ne vois qu'une bande de lumière jaune, et je suis terrifiée. À chaque fois, je me réveille en hurlant. Pendant des années, mon père adoptif s'est demandé comment il était possible qu'une gamine qui n'avait pas mal puisse quand même avoir peur. Tu rêves du placard ? Je crois, oui. Dans ce cas, tu as de bonnes raisons d'avoir peur. Adeline, je n'ai pas envie de revenir sur le passé. C'est toi qui nous as embarqués dans cette histoire. J'espère vraiment que ce n'était pas pour le plaisir d'évoquer le bon vieux temps. J'ai besoin que tu tiennes ta promesse. J'ai besoin que tu me protèges. Elle regarda mon visage balafré. Et même moi, je compris l'ironie de la situation. Mais elle opta pour un joyeux « Je suis là, non ?» Et ensuite ? Ensuite, tu me donneras la seule chose que j'ai toujours désirée, dit-elle d'un air songeur. Et pour une fois, j'entendis de la nostalgie dans sa voix. C'était par ce bout-là qu'il fallait la prendre. Même si on avait envie d'amour et de loyauté, il était beaucoup plus efficace de jouer sur son narcissisme foncier, de lui garantir qu'elle y gagnerait quelque chose. Ma sœur, qui après 30 ans en milieu fermé, n'entrerait jamais dans le monde réel. « Je vais t'emmener chez moi, » lui dis-je. « Ce n'est pas dangereux ? Pas plus qu'ailleurs ? Mais la police doit surveiller. C'est pour ça que j'ai un plan. Tu me fais confiance, Shana ?» Elle sourit. « Tu me fais confiance, petite sœur ? J'ai des cicatrices qui le prouvent. Y a pas à dire. » Elle se leva, jeta son gobelet dans la poubelle la plus proche et ramassa le sac. « Passe devant. C'est ton show. » Je l'emmenai chez Brooks Brothers. Sa première tentative de travestissement m'avait donné une idée. Si je rentrais chez moi avec une femme, la police risquait de se méfier. Mais pas si je rentrais avec un monsieur en costume cravate. Peut-être un collègue de la psychiatre de renom que j'étais. Un petit ami, voire mon propre thérapeute. Les possibilités étaient innombrables. Mais ma sœur en cavale n'y figurait pas. Dans la boutique, Shana semblait dans ses petits souliers. Et en même temps, elle ne pouvait pas s'empêcher de tout toucher. les chemises, les cravates, les costumes, jusqu'à la peinture à effet sur le mur. Elle avait l'air ébahie, comme un pecnotre juste débarqué de sa campagne. Je choisis un costume gris-souris classique. Le vendeur, qui ne nous quittait pas d'une semelle, surveillait avec anxiété les doigts baladeurs de Shanna. Puis il regarda avec une inquiétude croissante mon visage ravagé et ma main enveloppée de bandages. Pour finir, j'attrapai ma sœur et la poussai avec les vêtements dans la cabine d'essayage.
« Putain, la vache !»
s'exclama-t-elle 30 secondes plus tard.
« Ce n'est pas la bonne taille ?»«
Pas la bonne taille ? Tu as vu les prix ?»«
Voyons, mon chéri !»
dis-je en appuyant sur ces deux mots à l'intention du vendeur qui rôdait dans les parages.
C'est le prix de la qualité, mais tu le vaux bien. Allez, essaye.
Shanna ressortit une dizaine de minutes plus tard. Elle avait du mal à fermer les boutons, du mal à nouer sa cravate. Elle avait plus l'air en guerre avec ses vêtements qu'à l'aise dedans. Mais je finis de la boutonner, défroisser le tout et la tourner vers le miroir. Et nous ouvrîmes toutes les deux de grands yeux. Est-ce que c'était les cheveux, les traits de son visage ? Parce que Dieu sait que notre père ne s'était jamais promené en costume Brooke Brothers, et pourtant, l'espace d'une seconde, même si c'était Shanna qui se tenait sur la moquette, c'était Harry Day qui nous regardait dans le miroir. Je ne pus réprimer un frisson. Shanna s'en aperçut. Elle pinça les lèvres, ne dit pas un mot.
« On le prend », indiquai-je au vendeur.
« Retirez les étiquettes, il part avec. » J'ajoutai un long manteau noir à notre butin. Puis, je tendis ma carte de crédit au vendeur, qui évitait toujours soigneusement de regarder mon visage. Cette carte de crédit était ma carte de secours, celle que je conservais dans mon coffre, et pas dans mon portefeuille, en cas de vol. La police surveillait certainement l'activité de mes autres cartes, puisque Shanna s'était évadée avec mon sac à main. Mais celle-là ne devait pas poser problème. Et même si la police s'apercevait de l'achat, une femme d'un certain niveau social qui faisait des emplettes chez Brooks Brothers, ce n'était pas trop suspect, si ? Après la boutique de vêtements, j'emmenai ma sœur à quelques rues de là, dans un salon de coiffure sans rendez-vous. Un gamin, l'air blasé, rafraîchit sa coupe à la 6-4-2, puis, à ma demande, ajouta un balayage blond. Il y avait une télé dans un coin de la pièce. Les journaux du soir couvraient l'évasion qui avait eu lieu le matin même. Et ne se privait pas de montrer le visage de ma sœur, la mine bougonne sur sa photo d'identité judiciaire. Je regardai le coiffeur. Il n'avait pas l'air de faire attention aux informations ni à la photo. En tout cas, il ne semblait pas faire le rapprochement entre cette femme hâve en tenue orange et l'élégant gentleman installé dans son fauteuil. Je fus tout de même contente de nous faire ressortir toutes les deux en vitesse. Vers le drugstore, sur le trottoir d'en face, pour un dernier achat. Des lunettes de lecture à monture noire épaisse. Quand je l'ai perché sur le bout de son nez, Shanna le plissa, comme si elle allait éternuer. Mais le résultat en valait la peine. Shanna Day avait complètement disparu, remplacée par un brillant homme d'affaires.
« Il ressemblait à ça, ton père ?»
me demanda Shanna.
« Tu sais, ton autre père. »
« Non. »
« Comment ça se fait ?»
C'était un professeur. Il préférait le tweed. Ma sœur me regarda comme si je lui parlais dans une langue étrangère. Pour elle, c'était certainement le cas.
Roger,
lui annonçai-je gaiement en redressant ses lunettes.
On va t'appeler Roger. Tu seras médecin. En fait, tu es mon thérapeute. Après ce qui s'est passé ce matin, personne n'ira me reprocher d'avoir besoin d'un psy.
Ma sœur toucha une de mes cicatrices.
« Je suis un spécialiste de la douleur », dit-elle avec un humour à froid.
Puis elle fit volte-face, mal à l'aise sous le poids de tous ses nouveaux vêtements. Elle serrait et desserrait les poings. Nous repartîmes dans la rue et je continuais à regarder derrière moi. Tandis que ma sœur affichait toujours une expression impossible à déchiffrer.